J'aimerais ce matin qu'on puisse s'intéresser à un personnage qui m'est très cher et qui a eu énormément et qui a encore énormément d'influence dans mon ministère aujourd'hui. C'est un certain Josué. Or, Josué, on en entend beaucoup parler et c'est normal. Mais c'est quelqu'un qui je me retrouve dedans. Josué, c'est quelqu'un qui a commencé il y a longtemps son ministère en réalité. Il était serviteur de Moïse et il a été formé pendant un certain nombre d'années. On ne sait pas très exactement combien d'années. Certains disent qu'il était déjà dès le début, d'autres plus tard, peu importe. En tout cas, il a été formé pour le ministère auquel Dieu l'a appelé, c'est-à-dire remplacer Moïse et faire entrer le peuple dans le pays de Canaan. Un problème près, c'est que Moïse ayant craqué à un moment donné, Moïse n'est plus là, et il est devant Canaan, et c'est lui qui va devoir faire tout le boulot. Et ça pose un problème. En fait, je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé la question, pourquoi, moi je m'attendais que Jéricho, l'attaque de Jéricho se fasse en Josué chapitre 1. C'est dans quel chapitre que ça commence? La prise de Jéricho, c'est quel chapitre? Hein? 6! Qu'est-ce qu'ils ont foutu entre-temps? Ils n'ont rien fait, ils étaient en promenade, ils ont dit « ça fait 40 ans qu'on se promène, maintenant on va se poser un peu ». Non, en fait, il y a des problèmes à régler avant la conquête. Avant de servir, parfois, nous sommes tellement pressés de servir que... j'ai beaucoup aimé ton témoignage. Parce que nous voulons servir le Seigneur, on a beaucoup de zèle et Dieu dit, ça c'est pas ce que j'ai prévu pour toi. Tu as quelques petits problèmes, on va les régler d'abord. Et les problèmes, c'est justement, et c'est ce qu'on va essayer de voir dans un survol un peu rapide, de ces cinq chapitres, où il va falloir régler des problèmes. Et le premier problème, c'est Josué. Josué n'a pas des problèmes, il est un problème. Josué est un problème parce que ce monsieur qui a été formé, il a peur. Et je pense que dans certains cas, en tant que leader, en tant que responsable, en tant que personne qui a des responsabilités, à qui Dieu confie un ministère, on a la trouille. Et on a raison d'avoir peur. Regardez Josué, il a raison d'avoir peur, pourquoi ? Il a raison d'avoir peur parce qu'il connaît le peuple qu'il dirige. C'est quand même le peuple qui a réussi à faire craquer l'homme le plus patient. Et ce n'est pas nous qui disons qu'il est patient, c'est Dieu. Ils ont réussi à le faire craquer. 40 ans avec les chèvres et les moutons, il n'a pas craqué. Mais avec les moutons à deux pattes, ça a lâché. Il a raison d'avoir peur parce qu'il connaît aussi ce qui va arriver. Il connaît, il a fait le tour, vous savez, ça leur a valu 40 ans dans le désert. Il connaît la force du peuple, il connaît la puissance, il connaît les villes fortifiées, il sait ce qui l'attend. Et il a peur. Et du coup, il est tétanisé, il n'avance pas. Relisez tout le chapitre 1. On lira juste le chapitre 5. Hein. Le chapitre 1, il a peur. Qu'est-ce que Dieu va lui dire ? Moi, si j'étais à la place de Dieu, je dirais, comment, ça fait 40 ans que je te forme et tu me fais quoi, là? Comment ça fait, tu as vu tellement de grandes choses, et c'est ça ce que tu es capable de faire? Est-ce que c'est pas comme ça qu'on ferait en tant que, si on avait été à la place de Dieu? En réalité, Dieu va pas lui faire ça. Il va lui dire, prends courage, fortifie-toi. Vas-y, fonce! La deuxième chose qu'il lui dit, c'est « Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. » Donc rappelle-toi comment j'ai été avec Moïse et tu sauras comment je serai avec toi. La troisième chose qu'il va lui dire, c'est « Josué, que cette parole ne s'éloigne pas, non pas de tes oreilles, mais de ta bouche. » Or, c'est de la bouche que le cœur parle. Rappelle-toi, cette parole, c'est ça qui doit te diriger. Et vous comprenez combien l'ennemi aujourd'hui veut éloigner la parole de Dieu, la falsifier, pour qu'on ne soit pas dedans. Et c'est normal. Quand Josué, lui, est maintenant, ça y est, il est en forme, il a bien compris ces choses-là, il les a prises pour lui. Il va mobiliser ses officiers. Il ne va pas mobiliser le peuple, il va mobiliser ses officiers. Il a appris à déléguer. Et ses officiers vont mobiliser le peuple. Vous pouvez relire tout cela au chapitre 1. Mais on n'a vu que le chapitre 1. Il a un autre problème, Josué. Josué, il a fait le tour de Canaan il y a 38 ans. Il est un peu périmé dans ses infos. Si on avait parlé de l'église baptiste de Toulouse il y a 38 ans, on aurait dit quoi? Pas grand-chose. Hein? En tout cas, on n'aurait pas dit cela. Le monde d'il y a 38 ans, c'est pas le même qu'aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est surtout quand on est des vieux comme moi, c'est qu'on dit « dans le temps ». Ah, dans le temps. C'était beau, dans le temps. Bon, on oublie les galères. Mais c'est normal de faire comme ça parce que ça a marché avant. Oui, mais aujourd'hui, c'est autre chose. Et Josué va faire quelque chose d'extraordinaire. Il va faire une petite mise à jour. Au chapitre 2, il va envoyer des espions pour espionner Jéricho et voir comment c'est. Bon, c'est vrai que ce n'était pas très encourageant au résultat. C'est du style, c'est imprenable. En fait, il n'a fait que constater que le problème est vraiment difficile. Et parfois, nous sommes dans cette situation. La première, c'est, est-ce que je sais me mettre à jour? David avait des gens d'Issacar qui étaient là pour justement étudier les temps et faire des mises à jour à David. Est-ce que nous sommes à jour sur nos contemporains, sur notre vie, sur notre vie d'église, sur ma propre vie? Est-ce que je suis à jour ou est-ce que je suis complètement périmé? La troisième chose, et c'est bien parce que c'est un thème par chapitre sauf le cinquième. C'est formidable, hein, c'est facile à retenir comme ça. Donc, un, c'est Josué le boulet. Deux, mise à jour. La troisième, c'est que, rappelez-vous, tous les enfants d'Israël qui étaient sortis, ils étaient morts. Il ne reste plus que les enfants. Et les enfants, ils ont la foi de leurs parents. C'est souvent le cas. Ils ont entendu parler, ils ont vu certaines choses, mais ils n'ont pas expérimenté eux-mêmes ce que Dieu leur demande. Et dans le chapitre 3, il y a quelque chose de formidable, c'est que Dieu va les mettre devant une situation. Il n'y a plus la mer Rouge, alors Dieu a trouvé un ersatz. Un petit Jourdain en cru. Pas quand c'est la saison sèche et puis qu'il n'y a plus d'eau. Non, non, quand ça déborde bien et il dit « en avant ». En avant, en avant, t'as fourni les barques, t'as fourni les pirogues, je sais pas, enfin fais quelque chose, mais... Et on commence à raisonner humainement. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Et Dieu dit « en avant ». Là, ils étaient embêtés parce qu'en avant, il n'y avait rien, quoi. Et essayez d'imaginer la scène. En avant, tout le monde ne peut pas passer de front. Donc il y en a bien qui sont devant et d'autres qui sont derrière. Et là, comme c'est des gens très spirituels, ils demandent à Dieu, comme nous, quoi. Qui c'est qui va aller devant? Et là, ils ont du bol parce que c'est Lévi qui est nommé. Et je pense aux autres, tribus de dire, c'est pas moi. Et dans Lévi, c'est qui va aller devant? Ceux qui portent l'arche et les autres de dire, c'est pas moi. Et j'imagine, qui c'est qui va devant et qui c'est qui va derrière? Hein, si ça marche pas, hop, on peut tout lâcher. Je ferai juste une petite remarque. Qui est-ce que Dieu a mis en avant? Ceux qui sont au service de Dieu. Il n'a pas mis les suiveurs. Il n'a pas mis les râleurs. Il a mis ceux qui sont complètement au service de Dieu. Ceux qui sont les plus proches. Ceux qui portent l'arche. Pas ceux qui portent le tabernacle. Ceux qui portent les ustensiles. Non, ceux qui portent l'arche. Plus vous serez près de Dieu, plus il vous demandera de mettre les pieds dans l'eau. Ce n'est pas le moment de faire demi-tour. Hein. C'est le moment d'être devant. Et je peux imaginer la scène, quand ils ont mis les pieds dans l'eau, qu'est-ce qu'il va se passer ? On leur a raconté que les parents, quand ils ont traversé la mer Rouge, ils ont traversé entre deux murailles. Ils ont pu s'imaginer, ouais, c'est chouette, on va pouvoir voir les poissons en cul, on va comme ça devant nous. Pas de chance. Dieu leur a fait arrêter le Jourdain, mais 2 kilomètres plus haut. Dieu n'agit pas de la même manière. Alors, s'il vous plaît, arrêtons de dire à Dieu, je t'explique comment il faut faire. Seigneur, envoie quelqu'un pour parler à cette personne. Il est grand, vous savez, hein, il sait ce qu'il faut faire. Comment il m'a trouvé ? Au travers d'études bibliques ? Non, ça me gavait complètement. Il m'a trouvé grâce à une mauvaise note en maths. Bon, c'est pas la peine de ne pas travailler à l'école pour... Mais ce que je veux dire, c'est que Dieu est libre des moyens. Il sait à quel moment il doit nous toucher, comment il va nous toucher, par quels moyens. Laissons-le faire. Dieu ne va pas faire la même chose avec la deuxième génération qu'avec la première. Mais c'est le même problème. Est-ce que tu as confiance en moi ? Et la question qu'il nous pose ce matin, c'est tu veux faire de grandes choses pour le Seigneur ? Amen ! Fais-lui confiance. Il va t'ouvrir le Jourdain. Mais mets les pieds dans l'eau d'abord. Avance. En relisant pour Moïse, ça a été la même chose. Dieu a dit « avance » et c'est seulement après qu'il a dit à Moïse de mettre le bâton. Dieu ne nous dit pas « attends, nous on est là, je ne sais pas vous, hein, mais moi j'ai une tendance à dire « Seigneur, quand j'aurai vu la porte grande ouverte, j'envisagerai d'y aller. » Et Dieu dit « va vers la porte. La porte s'ouvrira au bon moment. » Et vous verrez que ce que je suis en train de dire ce matin, cet après-midi, ça prendra tout son sens. On en est au chapitre 3. Il paraît qu'après 3, il y a 4, non ? Dieu sait aussi que nous sommes oublieux. Et il va faire quelque chose de très simple, symbolique, mais suffisant. Il va dire au chapitre 4 que chaque responsable de tribu, pas n'importe qui, les responsables, c'est toujours les leaders qui doivent être devant, pas derrière à dire ce qu'ils doivent faire. Ils sont devant. C'est de prendre des pierres. Non, ne croyez pas que c'était des immenses rochers, hein. Il fallait pouvoir soit les porter, soit les rouler. Donc ce n'était pas énorme. Les sortir du fleuve pour les mettre et en faire un tas. Juste pourquoi ? Pour quelle raison ? Juste pour que le peuple puisse se rappeler, chaque fois qu'il viendra et qu'il verra ce tas de pierres, Dieu nous a fait traverser là. Combien de fois Dieu fait des choses grandioses dans notre vie, merveilleuses, et qu'est-ce qu'on fait ? On les oublie. On les oublie. C'est pour ça qu'on est obligé de chanter contre les bienfaits de Dieu. Ce qui est rigolo, c'est qu'on le chante toujours au moment des repas. Ce n'est pas au moment des repas qu'il faudrait le chanter. C'est surtout quand j'oublie. Quand je suis en train de me poser, est-ce que Dieu est là ? Est-ce que Dieu m'écoute ? Est-ce que Dieu fait des choses ? C'est à ce moment-là qu'on devrait dire. Voyons voir. Faisons le bilan de tout ce que Dieu a fait dans ma vie. Alors ça, c'est l'avantage quand on est plus vieux, c'est qu'on a encore plus de raisons de compter. Le nombre en est encore plus grand. Mais combien de fois on les oublie ? Et moi le premier. Et c'est là qu'on arrive au chapitre 5. En fait, il reste 3 problèmes à résoudre. On a vu le premier que Josué a peur. Premier problème à résoudre. Le deuxième, mise à jour. Le troisième, le pas de foi qui va faire que le peuple d'Israël va pouvoir construire cette conquête sur cette confiance en Dieu. Et puis, ne pas oublier ce que Dieu fait. Mais il y a ce chapitre 5, c'est le seul où il y a 3 problèmes à résoudre. La première des choses que je dirais, c'est le premier verset qui nous rappelle que Dieu est en train de travailler. Souvent, ne voyons rien. On a l'impression que Dieu ne travaille pas, qu'il ne se passe rien. Mais si vous regardez, ce premier verset nous est dit que Dieu est en train de travailler, il est en train de mettre la trouille chez les Cananéens. Mais ça, eux ne le savent pas. Notre façon de voir et la façon de Dieu de voir est complètement différente. Lui travaille, même si nous on ne voit rien. Ne cherchons pas à voir forcément, faisons ce que Dieu nous demande. Mais il y a trois choses. La première, c'est qu'ils ont oublié la circoncision. En tant que tel, ce n'est pas si grave que ça. Ce qui est grave, c'est qu'ils ont oublié que la circoncision, c'est le signe de l'alliance entre Dieu et ce peuple. Pas les peuples, ce peuple. Et c'est vrai qu'il n'y a pas que des Israélites qui sont sortis d'Égypte. Il y a aussi des Égyptiens qui ont suivi d'autres peuples. Mais ce qui est sûr, c'est que durant leur temps de traversée, c'était vraiment la galère. Ils ont vraiment mis Dieu de côté. Ils ont pris tellement l'habitude d'être avec Dieu, d'être avec le peuple de Dieu, qu'ils ont oublié qu'ils étaient le peuple de Dieu. Et je pense que parfois c'est la même chose avec nous. Nous sommes tellement là, nous avons tellement l'habitude de venir tous les dimanches nettoyer notre chaise pendant le culte. Hein, on bouge comme ça, donc ça nettoie bien la chaise. Que finalement on en oublie qu'on est d'abord du peuple de Dieu. On pense qu'on est baptiste, mennonite, méthodiste, enfin tous les istes qui existent. Mais on oublie qu'on est du peuple de Dieu. Je suis d'abord enfant de Dieu. J'appartiens au peuple de Dieu. Et l'église locale en est l'expression. Mais j'oublie qui je suis. J'ai un problème d'identité. Et vous savez, ce qui me frappe actuellement, quand je dis actuellement, ça fait peut-être 2-3 ans, on en reparlera cet après-midi, c'est combien les gens, et les chrétiens en particulier, ont des problèmes d'identité. Ils ne savent pas qui ils sont. Quelle est notre identité en Christ? Qui je suis? Aujourd'hui, le monde me dit, tu ne sais même pas si tu es un garçon ou une femme.
C'est moi qui choisis aujourd'hui si je suis une femme.
Ou je suis un mec. Terrible! J'ai plus le droit de savoir qui je suis. On me dit que tu choisis qui tu es. C'est pas vrai. Parce que Dieu m'a fait d'une certaine manière, avec un certain caractère, avec un certain comportement, avec certains dons. Et on te dit, mais non, c'est faux. Et eux, ils ont un problème d'identité. Ils ne savent plus qu'ils sont les enfants de Dieu. Le peuple de Dieu. Ce peuple qu'il doit aimer, servir leur Dieu. Et ça va commencer, avant de te servir, se mettre en règle sur son identité. Tu sais qui tu es? Tu sais qui tu es? Je suis sûr que si on faisait un sondage, on aurait des mauvaises surprises. Quand nous sommes au Bénin, on a eu de très désagréables surprises sur ce côté-là. Je ne sais pas qui je suis. Je ne sais pas qui je suis. Je ne sais pas. Je vais à l'église, j'adore, je chante, je prie, je lis ma Bible, mais je ne sais pas qui je suis en Christ. Ça, c'est une partie de la formation que nous donnons. Ça, c'est le premier problème. Et ils vont se mettre en règle. Et c'est intéressant parce que durant le temps où ils se mettent en règle, ils deviennent fragiles. Ben, c'est normal, hein. La circoncision, quand on veut marcher, c'est un peu compliqué. Ils deviennent fragiles, vulnérables. Mais Dieu protège son peuple. Si les Cananéens avaient su ça à ce moment-là, aïe, 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 ils s'en seraient donnés à cœur joie. Mais Dieu protège son peuple. Dieu protège ses enfants quand ils sont justement fragiles, en train de se remettre en règle avec Dieu. La deuxième chose où ils ne sont pas en règle, c'est qu'ils ont oublié d'être libres. Et ils vont faire la Pâque. Ils vont célébrer la Pâque. Ils vont célébrer cette libération. Rappelez-vous de certaines paroles du peuple d'Israël dans le désert. Qu'est-ce qu'ils disaient? Ah, en Égypte, on avait des oignons et des concombres. Qu'est-ce qu'on était bien en Égypte? Ils se rappellent des oignons et des concombres, ces cornichons. C'est incroyable! Ils ont oublié combien ils suppliaient Dieu de les libérer à cause des coups de bâton. Ils se rappellent des oignons et des concombres. Est-ce que nous pouvons imaginer combien dans notre vie nous nous rappelons des choses, pas là où on a supplié Dieu, non, là où on était apparemment bien, mais qui nous maintenait dans l'esclavage. Tu es esclave de quoi aujourd'hui? De ton passé? De tes souffrances? De mauvais traitements? de tes frustrations. Tu es esclave de quoi? Dieu dit qu'en lui, tu es libre. Et il te libère. Et si vous regardez bien, il est dit que Dieu a enlevé l'opprobre de l'Égypte sur le peuple. C'est-à-dire que l'Égypte n'a plus aucun pouvoir. Le pharaon ne peut rien dire. Personne ne peut plus rien dire sur eux. Et c'est Dieu qui commande. Mais qui commande ta vie? Réellement. Je ne parle pas en théorie. En théorie, on est des bons évangéliques. On sait quelle réponse il faut fournir. Non, c'est Dieu qui commande ma vie. Mais je fais quand même ce que je veux. Qui commande ta vie? Qu'est-ce qui te maintient encore? Esclave, esclave de ton péché, esclave de ton passé, esclave peut-être des autres, du regard des autres. C'est peut-être un engin comme ça dont tu es esclave, et de ce qu'on peut y trouver dessus. Je ne fais pas de dessin, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui te rend esclave? Dieu veut que tu sois libre, Dieu veut que je sois libre. Et que je vive en toute liberté. J'ai lu un article qui m'a réjoui. Il m'a dit que chaque matin, quand je me levais, je ne sais plus combien j'ai de secondes à vivre, mais chaque seconde, je suis libre de dire « Je veux la vivre dans la joie » ou en faisant la tête. « Je suis libre d'être dans la paix » ou en conflit intérieur. C'est moi qui décide. Si je prends simplement « Aujourd'hui, tu as décidé quoi ?» T'es libre de quoi? Et ça, c'est un point important. Et tant que le peuple n'est pas libre, il ne peut pas rentrer dans le pays promis. C'est impossible. Sinon, il va ramener tous ces trucs de l'Égypte en Canaan. Et Dieu dit, fin de l'histoire. Les choses anciennes sont passées, voici. C'est fou, on le connaît bien, ce verset. Et qu'est-ce qu'on a comme difficulté à le mettre en pratique? C'est incroyable. On est quand même des bons théoriciens. Alors les praticiens, c'est des fois un peu foireux. Et ce qui est extraordinaire, c'est que quand ils vont être en règle avec Dieu, la manne s'arrête, les choses sont nouvelles, et donc on mange les produits du pays. Fin de l'histoire. Et la vraie histoire de la sortie d'Égypte se finit au chapitre 5, quand ils se sont mis en règle. Et donc ils peuvent profiter enfin de ce pays où coule le lait et le miel. Peut-être que ta vie aujourd'hui, ce n'est pas du lait et du miel, ça ressemble plutôt à de l'absinthe, à des, vous savez, ces trucs qui sont un peu amers. Là. Mais peut-être parce que justement, il y a des trucs qui sont peut-être à nettoyer. Et c'est bon de le faire. Vous inquiétez pas, ça dure toute la vie. Ça. Parce que qu'est-ce qu'on a envie de revenir en arrière? C'est fou. Là. Mais il reste encore un petit problème. Pas de chance, c'est encore Josué le problème. Josué se retrouve, et on ne prêche pas souvent sur ce texte, c'est à partir du verset 13. Josué, il a un gros problème, un immense problème. Et maintenant que tout est prêt, il faut aller conquérir Jéricho. Et Jéricho est imprenable. Quand vous êtes préoccupé, comment vous avez le regard? Vers le bas, au milieu ou vers le haut? En général. Hein? En bas, ouais. Quand je suis préoccupé, je marche comme ça. Et dans ma tête, en fait, je regarde pas forcément par terre, mais n'empêche que j'ai le regard vers le bas. Ce qui me frappe dans l'histoire qu'on a lue, c'est que c'est quand il a levé la tête qu'il a vu cet homme qui était devant lui. Même s'il n'a pas compris qui c'était. Très souvent, la solution à nos problèmes, c'est de lever la tête. On est tellement, on va dire la tête dans le guidon, on est tellement préoccupé par nos problèmes que finalement, on oublie qu'il faut simplement lever la tête. Et il va voir cet homme. Cet homme, il est vachement sympa, vous avez remarqué. Il est debout devant lui avec l'épée dégainée. Comment vous pensez? Enfin, moi, je ne le trouve pas très sympa. Et d'où la question de notre frère Josué. Tu es de quel côté? De nos ennemis ou de nous? Est-ce que vous avez remarqué la réponse? C'est typique de Dieu, ça. Quand vous lui posez une question, il ne répond pas et il donne une autre réponse. Demandez à la femme samaritaine, il lui pose une question, elle lui pose une question, il répond à côté. Toujours! Mais c'est toujours la bonne réponse. Qu'est-ce qu'il lui répond ? Je suis le chef de l'armée de l'Éternel, je viens maintenant. Ouais, et alors ? T'as pas dit de quel côté ? Enfin, ça c'est moi qui le dis, mais Josué le comprend. Josué comprend, en fait, Josué, tu es de quel côté ? C'est ça la vraie question. Josué, est-ce que tu es de mon côté ou est-ce que tu es de ton côté ? Très souvent, qu'est-ce que nous faisons quand nous avons des projets ? Et moi, le premier, je dis, Seigneur, bénis les projets parce que je suis convaincu que c'est les meilleurs. Ce sont les meilleurs. Et Dieu dit, j'en ai rien à faire de tes projets. Moi, j'ai préparé des plans de bonheur et non de malheur. Pour que tu aies de l'assurance et de l'espérance et de l'avenir. Alors, rentre dans mes plans. Hein? Jérémie 29, 11. Tu es de quel côté ce matin ? Tu es de ton côté ou tu es du côté de Dieu ? Et la question, elle est là. Et Josué le comprend. Et qu'est-ce qu'il dit ? Il se prosterne, il adore d'un côté, et il demande, qu'est-ce que je dois faire ? En fait, qu'est-ce qu'il a fait, Josué ? Il a déposé le commandement. Et avoué. Si vous êtes des personnes comme moi, déposez le commandement. Seigneur, je suis prêt à t'obéir pourvu que tu fasses ma volonté. Sachez le dire. Seigneur, j'ai tellement de bonnes idées que c'est évident que tu vas les bénir et que tu es d'accord avec moi. N'est-ce pas que tu es d'accord avec moi ? Et c'est pas ça. C'est Seigneur, que veux-tu que je fasse ? Et le chef de l'armée de l'Éternel va lui dire, enlève tes godasses, car le lieu où tu es est saint. En fait, c'est une phrase que je n'ai comprise qu'en Afrique. Comme quoi, il y a des fois des déplacements qui sont intéressants. J'ai compris parce que quand un roi démettait un autre roi, la première des choses qu'il faisait, bien sûr, il enlevait ce qu'il avait sur la tête, mais il le déchaussait. Parce que c'était la tenue de l'esclave. Josué, deviens mon serviteur. Deviens mon serviteur. Dépose ton commandement et deviens mon serviteur. Et en fait, c'est ça une des conditions pour lesquelles nous pouvons servir. Est-ce que nous sommes prêts, chacun de nous, à être des personnes qui sont prêtes à enlever leurs chaussures ? Je ne parle pas de nos godasses ici, je parle de nos chaussures de commandement qui montrent que nous sommes le chef. Pour pouvoir dire, Seigneur, fais de moi ce que tu voudras. Il y a un très beau chant que des jeunes ont chanté quand ils étaient au Bénin, et ils ont dit, là où tu m'enverras, j'irai. J'ai fait menteur. Tahiti, j'ai pas de doute. Le Pakistan ou l'Afghanistan, j'ai un peu plus de doute. Où tu m'enverras, j'irai. Ce que tu me demanderas de faire, je le ferai. Moi, j'avais dit plein de choses que je ne ferai jamais. Je ne ferai jamais, d'abord, j'épouserai jamais une Alsacienne, j'épouserai jamais une fille de pasteur, je ne serai jamais pasteur, j'irai jamais dans l'administration. J'ai tout fait. Et vous savez le comble ? Avec joie. Parce que Dieu, au fur et à mesure, a travaillé ma vie pour faire les choses avec joie. Ôte tes sandales. Mais c'est la seule condition pour laquelle Dieu pouvait révéler après à Josué son plan complètement dingue de prise de Jéricho. Tant que Josué s'attaquait à Jéricho intellectuellement dans sa manière de faire, ça ne portait aucun fruit parce qu'il ne voyait pas comment le faire. À partir du moment où il a déposé le commandement, le chef de l'Éternel a pu lui dire, et ça c'est les trois premiers versets du chapitre 6, eh bien, tu vas faire quelque chose de très simple. Tu vas faire le tour de la ville. Enfin, essayez pour Toulouse, vous verrez. Hein. Parce que c'est seulement dans ce cas que ça a marché. Regardez, les autres villes, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Et Dieu va nous montrer au fur et à mesure ce que nous avons à faire pour que son service soit opérationnel. tant que je n'ai pas déposé le commandement, tant que je ne suis pas en règle avec lui, je pourrai faire ce que je voudrais. Ça ne servira absolument à rien. Je ferai ma volonté, je ferai de belles choses, les hommes vont m'admirer, mais Dieu pas. Et moi, je m'en fous si les hommes m'admirent, mais j'aimerais bien que Dieu un jour puisse me dire, entre bon et fidèle serviteur, tu n'as pas servi à grand-chose, mais entre. J'ai pas été nuisible, c'est déjà pas mal. J'étais seulement inutile. Voilà ce que Dieu veut. Est-ce que nous, vous allons accepter de déposer ce commandement? De nous mettre en règle? De savoir que nous appartenons au peuple de Dieu? Et être libre? Peut-être que tu as peur aussi dans ce que Dieu te demande de faire. Vas-y, fonce. Il est avec toi comme il a été avec Josué, avec Moïse, avec les autres. N'aie pas peur. Fais ce que tu as à faire. Mets-toi à jour. Parce que ce que tu as pensé, c'est peut-être périmé. N'hésite pas à traverser des difficultés. Ne prie pas pour que Dieu t'enlève les difficultés, mais pour que tu les traverses victorieusement. C'est très différent. N'hésite pas à te rappeler tout ce que Dieu a fait dans ta vie. Rappelle-toi que tu es enfant de Dieu. Rappelle-toi que tu es libre. Quand des idées sombres viennent t'accabler, lâche. Et tu verras ce que Dieu va faire. Lâche le commandement. Et après, le pays est devant toi. Fonce. Fonce. Ça ne veut pas dire que tu feras tout bien. Hein. On va s'arrêter là parce que sinon, il y a encore quelques chapitres derrière. Il n'a pas fait que des bonnes choses, Josué. Il s'est trompé sur certaines choses. Il a manqué de discernement. Mais Dieu l'a conduit jusqu'à ce que le peuple soit dans le pays de Canaan. Mission accomplie. Que chacun de nous puisse un jour dire, et surtout, et entendre de la part de Dieu, entre bon et fidèle serviteur.